Bonjour, je suis Gabriel. Je suis un garçon de 16 ans qui est trans. Je suis étudiant d'art à l'IPAC Design. J'adore dessiner, jouer aux jeux vidéo, cuisiner. Je suis affecté depuis longtemps avec de l'hyperphagie. C'est-à-dire que durant mes crises, je mange trop pour mon corps. Et parfois, je mange tellement jusqu'à en vomir ou en être malade. Et ça me fait sentir mal. Et quand je me sens mal, je refais des crises. Et quand je fais des crises, je me sens mal. Et c'est un cercle vicieux qui est vraiment ennuyant. Pour moi, ces types de crises hyperphagiques, c'est quand j'ai des émotions qui sont trop fortes, qui sont soit négatives, soit positives. Juste vraiment des émotions trop trop fortes. Par exemple, une dispute ou quelqu'un me crie dessus. Il y a plein d'autres exemples qui existent, mais qui à l'instant ne viennent pas à la tête. Durant ces crises, le fait que je mange beaucoup apaise en quelque sorte, évidemment temporairement, ces émotions fortes et me permet de me calmer en quelque sorte. Le problème, c'est que ça dure pas tout le temps. Ce qui fait que à chaque fois que j'ai des émotions fortes, mes crises deviennent de plus en plus grandes, ce qui fait que je veux manger de plus en plus. Au bout d'un moment, on peut imaginer que ça devient assez handicapant. Pour moi, je pense que les premiers signes de la maladie se sont manifestés vers mes 7 ans, 8 ans, quand j'ai commencé l'école primaire. J'étais dans le système français, donc le CP, CE1, c'est quand ça a un peu commencé. Et ça a beaucoup évolué durant l'époque du collège et de la grande section, comme on disait. J'étais pas vraiment acceptée entre les personnes de mon âge. Il s'est passé plusieurs accidents en 6e et quand j'étais encore plus petit, on m'a mis à l'écart. Ce qui n'a vraiment pas aidé mon estime de moi. En gros, j'étais dans plusieurs relations amicales qui étaient toxiques. Je me faisais beaucoup utiliser par des soi-disant amis. C'était pas une magnifique période, si on peut dire comme ça. Il y a eu plusieurs donc accidents, comme j'ai dit, qui m'ont vu encore plus éloignée des autres. Ça a continué comme ça jusqu'en 4e quand j'ai changé d'école. Mais même à cette nouvelle école, ça s'est pas amélioré. Il y a mes problèmes qui m'ont un peu suivi, si on peut dire comme ça. Tout ça n'a vraiment pas aidé parce que déjà je souffrais un petit peu de dysphorie de genre. Comme j'ai dit, je suis trans. Je m'identifiais étant un homme et malheureusement je suis née dans un corps d'une femme. Donc déjà cette partie, c'était pas très simple. Plus je faisais des crises comme dit avant parce que à cause de tout ce qui se passait à l'école, évidemment j'étais pas très bien. Je pense pour moi c'est un peu évident, mais le fait d'être beaucoup mis seul, écouté, qu'on pense pas à mes émotions et on pense surtout aux émotions des autres, c'était très compliqué pour moi à vivre. C'est toujours compliqué avec beaucoup de souvenirs de l'époque qui me viennent de temps en temps. C'est pas très plaisant. À cause de ça, il y a aussi beaucoup de dysmorphie qui est aussi entrée en jeu. Donc dysphorie et dysmorphie, c'est un super combo. Je pense que ça a vraiment dégénéré jusqu'à mon entrée au collège. Pour moi, la dysmorphie, c'était je me sentais pas bien dans mon corps, c'est un petit peu comme la dysphorie, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment relié aux formes de mon corps, entre guillemets. Par exemple, j'ai toujours malheureusement un peu l'impression d'être trop grand pour l'espace autour de moi. Pour moi, personnellement, c'est j'ai l'impression de prendre donc trop d'espace, que je suis un petit peu trop dans la voie des gens physiquement. J'ai des épaules un petit peu plus grandes, j'ai des bras plus grands, ça gêne dans la vie de tous les jours d'avoir de la dysphorie, de la dysmorphie. La maladie, elle a commencé, je dois dire, assez gentiment, si on peut dire comme ça. C'est pas vraiment un bon terme, mais voilà, elle a commencé gentiment avec je mangeais un peu plus chez moi, je dormais un peu moins, je dormais par exemple au lieu de 9 à 8 heures, je dormais 7 à 6 heures parce que j'étais distrait à manger. Ensuite, dès que je suis entrée au collège, ça a un peu empiré parce qu'au milieu des cours, si j'avais pas de la nourriture sur moi, j'allais m'en acheter. Ce qui faisait que j'arrivais souvent en retard. Et ce qui faisait qu'il me faisait perdre beaucoup d'intérêt aux cours. Donc, niveau scolaire traditionnel, sont plusieurs comme ça, avec les cours traditionnels, ça a beaucoup dégringolé. Comme j'ai dit, il y avait plusieurs événements qui sont arrivés et ça a causé de grosses pics en dose de nourriture. Par exemple, je me rappelle, je commençais avec un paquet de bonbons en plus. Et après, ça dégénérait, c'était 3 paquets de chips, beaucoup de malbouffe, si on peut dire comme ça. Des trucs qui sont bons, évidemment, mais qui malheureusement, en trop grande quantité, font mal au corps. En gros, plus le temps passait, plus mes crises devenaient grandes, plus la nourriture augmentait, plus ma dysmorphie et dysphorie augmentaient avec eux. C'était vraiment pas une bonne évolution, si on peut dire comme ça. Le cerveau, au bout d'un moment, il s'habitue à une petite dose, et après, cette petite dose n'est pas assez, il veut encore plus. Comme c'est dit, c'est un petit peu comme, malheureusement, une addiction de drogue. C'est horrible. Voilà, tout simplement, c'est horrible. J'en ai plusieurs d'événements qui m'ont beaucoup marqué. Comme j'ai dit, j'ai vécu plusieurs accidents. Et je pense que l'accident qui a vraiment tout fait basculer du mauvais côté, c'était en sixième. J'avais cette amie-là, cette amie que maintenant j'appelle, c'était une amie qui est toxique, clairement, parce que en gros, c'était pas une bonne personne. Et on avait une amie qui était assez fragile physiquement. On lui avait dit qu'elle pouvait pas faire le sport avec nous. Au début, je savais pas pourquoi. Pour moi, elle avait l'air d'être une personne assez décente. Après, je ne sais toujours pas pourquoi elle ne pouvait pas, mais je pense que c'est des problèmes de santé, donc c'est pas mes affaires. Mon amie, pour rigoler à la récré, elle lui avait mis sa veste dessus. Elle m'a encouragée à mettre aussi la mienne dessus, sur la fille. Et malheureusement, au fait, ça l'a envoyée à l'hôpital, parce qu'elle s'est évanouie. On nous a dit clairement, ses parents, sa sœur, ils nous ont engueulés, ils nous avaient dit qu'elle aurait pu mourir, et je l'ai réalisé, parce que c'était vraiment un truc de con. Le truc qui m'a encore plus mal marqué, c'était le fait que mon amie, elle m'a abandonnée sans rien dire. Elle a changé d'école, elle a oublié mes contacts et elle m'a laissé gérer tout ça tout seul. J'étais donc beaucoup isolée à l'école, comme je l'ai dit avant, et c'était pas très cool, quoi. Mon entourage a réagi à la maladie assez différemment, je dois dire. Mes parents, ils ne savaient pas c'était quoi, tout d'abord, un trouble alimentaire. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait chez moi. Ils pensaient vraiment que j'étais juste très paresseux, je voulais rien foutre, mais au fait, j'étais en train de tomber dans une dépression. Ils m'avaient amené voir plein de diététiciens, ils m'avaient fait voir des nutritionnistes, ils ont essayé la corruption. Si j'arrêtais de manger autant, je pouvais avoir tout ce que je voulais. Ça n'a pas marché. Et au fait, je pense un petit peu, là maintenant, que je suis plus grand et on peut dire plus mature, qu'ils ont un petit peu négligé à voir l'état dans lequel j'étais. Parce que maintenant, quand je me regarde durant ces années, il y avait clairement quelque chose qui allait pas. Genre, il fallait demander de l'aide professionnelle, je trouve. Pas que de l'aide pour la nourriture, vraiment, je pense de l'aide professionnelle, un psychiatre, un thérapeute. Plus le temps passait, plus ça allait mal. Et donc, voilà, j'ai... Au fait, mes parents, ils ont bien fait dans une partie, ils m'ont amené voir des nutritionnistes, des diètes, mais ils n'ont pas pensé à me donner un aide psychologique, parce que c'était, je pense, ça, un des besoins principaux, et que c'était pas juste le fait que de manger le problème, c'était vraiment quelque chose en dessous, enfoui, caché, si on peut dire comme ça. Les relations avec le reste des personnes autour de moi ont évolué bien et mal. Dans le groupe de mes amis, quand je commençais à suspecter que c'était pas normal de manger autant, c'était le début du lycée, donc l'année dernière, ils comprenaient pas, donc ils parlaient de choses qui étaient assez triggering. Par exemple, oh mon dieu, tu vas manger tout ça, oh mon dieu, j'arriverai jamais à manger ça, oh tu veux finir mon plat, trucs comme ça, c'était pas très gentil. Mais bon, après, ils connaissaient... Il n'y avait pas beaucoup d'éducation par rapport à ça dans mon école, donc en soi, je peux comprendre. Partie positive, je dois dire, c'est que même si je restais dans ma chambre, j'ai réussi à développer des nouvelles passions, comme l'art et les jeux vidéo. J'ai fait plein de nouvelles rencontres avec des personnes online avec qui je suis toujours amie, qui ne m'ont jamais jugée pour comment ma vie était à l'extérieur, comment je ressemblais, et qui appréciait ma compagnie pour moi. Donc d'une partie, ça m'a un peu aidé quand même à rester en contact avec le monde, si on peut dire comme ça. Même si c'était pas la meilleure façon de rester en contact. Au moins, il y avait quelque chose. C'est toujours mieux de rien. Au début, je dois dire, j'étais assez embarrassée de devoir dire que j'avais besoin d'aide. Je pense comme la plupart de gens en situation de besoin, on n'a pas envie d'admettre qu'on a besoin d'aide. Même si avant j'ai dit que c'était un petit peu le devoir, entre guillemets, de mes parents de m'aider, évidemment ils peuvent pas tout faire. Il y a toujours, je pense, une partie, surtout de ma mère, qui pense que l'hyperphagie n'est pas une vraie maladie. Le problème avec les troubles alimentaires, c'est que l'apparence, ça a l'air très simple. C'est tu manges pas assez, mange. Tu manges trop, mange pas. Tu manges des trucs que tu dois pas, mange-les pas. C'est de surface, ça a l'air tellement simple, mais il y a tellement plus de couches cachées à l'intérieur et c'est compliqué de l'expliquer à son entourage, surtout à des personnes à qui tu dois faire confiance comme tes parents. Ça m'a pris beaucoup de temps à leur dire pleinement, est-ce qu'on peut éviter de parler de tel et tel sujet? Je suis malade et je peux pas, juste pas me permettre d'entendre des trucs comme ça ou d'entendre des commentaires sur mon corps. Ma mère, elle me faisait, et malheureusement elle m'en fait toujours, beaucoup de commentaires sur comment je suis et ce que je mange. J'ai vraiment dû mettre mon pied par terre et lui dire à maman, je suis malade. Entendre ces trucs-là, ça n'aide pas. Je pense que toutes les personnes qui réussissent à faire comme ça sont braves, parce que c'est super compliqué. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de force mentale à dire tout ça. C'est compliqué d'admettre qu'on est malade. L'admettre des personnes comme tes parents, tes proches, tes amis, ton chien, voilà. Peut-être pas ton chien, mais c'est compliqué. Personnellement, j'ai eu la chance d'être hospitalisée pendant presque 2 mois, donc à Belmont. J'ai accepté malgré moi au début, parce que de base, je voulais juste pas aller en cours. Je me suis dit, ok, bah, je vais me faire hospitaliser, au moins je vais pas participer en cours. Personnellement, j'ai eu la chance que mes parents, ils ont compris au bout d'un moment que ce que j'avais, c'était pas juste manger. Et ils m'ont aidé à trouver une autre école qui était plus dans mes besoins. Donc, pour moi, c'était une école d'art. Et dès qu'elle était trouvée, on m'a déscolarisée et je suis entrée en hospitalisation. Et je vais dire très franchement, la première semaine, elle était horrible, terrible même, tous les adjectifs. Je n'arrivais pas vraiment à sortir de ma chambre durant les premières semaines. J'arrivais pas vraiment à socialiser avec les autres patients. J'admets aussi que je faisais vraiment pas d'efforts au début. Je faisais pas d'efforts pour suivre les conseils de la diète. Après genre 2 semaines, 3 semaines d'hospitalisation, je me suis rendu compte que si je voulais sortir, comme on m'avait dit, 6 semaines, je devais vraiment faire ce qu'on me disait, ce que j'entendais dans les groupes. Peu à peu, je me suis habituée à un petit peu, bah, dans mon cas, réguler le taux de nourriture que je mangeais, réguler un petit peu mes émotions, comment gérer tout ce qu'il y avait en dessous. J'ai commencé à prendre aussi quelques médicaments qui, je pense, ont aussi aidé durant le procès. Évidemment, c'est pas les médicaments qui ont tout fait. Et quand je suis sortie, bah, je me rappelle, c'était une super journée. Je me sentais nouveau, je me sentais mieux dans ma tête et dans mon corps. La réalisation d'être malade a été extrêmement compliquée pour moi, je dois dire. J'étais vraiment pas sûre. Je pense que d'un petit côté de moi était sûr, était un peu conscient que c'était pas normal, entre guillemets, ce que je faisais, et qu'il y avait quelque chose en plus en dessous. Je pense que je me suis vraiment rendu compte au début de cette année, quand je suis entrée en hospitalisation. Mes habitudes, je me suis rendu compte que c'était pas très saine pour une personne normale, entre guillemets. Et ça m'a fait un petit choc, si je peux dire comme ça. Parce que c'est quand même un diagnostic, et parfois ça fait un choc d'entendre des choses comme ça. La guérison, là, je la vis assez bien. Ça fait presque 9 mois, presque un bébé, que je suis entrée en thérapie. Ces mois, ils ont été extrêmement précieux pour moi. J'ai appris énormément de choses sur mon trouble, sur moi-même. J'ai réussi à être franc et honnête avec ma famille. Je pense que la guérison, elle est venue pour le mieux pour moi. Le futur. Si on me demandait ça il y a 1 an, j'aurais dit je serais 6 pieds sous terre. Je serais définitivement mort. J'étais vraiment mal, j'étais en échec scolaire, j'étais dans une dépression profonde, j'avais beaucoup d'idéations suicidaires, j'étais pas dans un bon endroit. Et maintenant, je dis pas que tout ça est magicalement disparu, parce que malheureusement, ça se passe pas aussi rapidement. Je suis en train de me battre pour tout ça. Et je vois que j'ai un futur assez promettant. Je suis dans une école dans laquelle je fais des choses qui me passionnent. Je fais de l'art, je dessine. J'apprends le métier qui m'a toujours plu. Maintenant, j'ai rencontré aussi des personnes qui sont comme moi. Peut-être pas vraiment comme moi dans tous les aspects, mais qui me comprennent dans cette école. Et je ne suis plus seule. Et c'est quelque chose que je trouve qui est super bien. Je pense qu'une des plus grandes difficultés que j'ai eues en regard à la maladie, c'était l'apprendre. Parce que les seuls troubles alimentaires que je connaissais, c'était l'anorexie et la boulimie. J'étais pas sûre c'était quoi. Je pensais un petit peu comme je pensais le cliché, c'est tu manges pas assez. Alors qu'évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça, j'ai appris. Mais c'était vraiment pas simple au début d'apprendre, j'étais vraiment dans le noir. Le pire, c'est qu'au fait, je trouve que l'hyperphagie, c'est vraiment répandu et banalisé dans le monde. Pas évidemment, comme tous les troubles alimentaires. Le problème, c'est que je l'entends pas du tout être parlé. J'entends très peu d'éducation par rapport à ce trouble et à plein de troubles. Ça fait un peu peur, limite. Parce que comment est-ce qu'on est censé s'aider si on sait pas avec quoi on a besoin d'aide? C'était très compliqué au début. Mais après on m'a aidé surtout à savoir c'était quoi, savoir c'était quoi ma bataille. Maintenant, je sais ce que je fais, plus ou moins. Comme dit avant, je trouve qu'un des bons moyens pour lutter contre un peu l'ignorance des TCA, c'est plus d'éducation. Plus de représentation de l'hyperphagie, de l'anorexie, de la boulimie, de tout trouble. Parce que il y a probablement plein d'enfants, plein d'adultes, plein de personnes en dehors de tout ça qui se demandent qu'est-ce qui va pas chez moi et qui peut-être ne le sauront jamais. C'est, en mon opinion, un pas qui est nécessaire pour la société. savoir, savoir, juste le fait de savoir les dangers qu'un trouble alimentaire peut consister, éviter de les autant les glorifier. C'est pas juste « Oh mon Dieu, t'es trop skinny !» ou truc comme ça. Non, il y a de la souffrance derrière. C'est pas tout de la joie. C'est pas un truc à glorifier, à mettre sur un piédestal. C'est un peu cliché, mais ce que je dirais à quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires, c'est tout ira bien. Que le TCA, ça ne te définit pas. Et que tu es plus que la maladie. Et tu es plus fort que de ce que tu penses. J'étais dans ces pas avant. Je sais maintenant que je ne suis pas hyperphagie. Vous n'êtes pas la boulimie. Vous n'êtes pas l'anorexie. Vous n'êtes pas votre hyperphagie. Vous n'êtes pas votre trouble alimentaire. Vous êtes vous. Et je pense que c'est extrêmement important que les personnes le réalisent. J'ai deux derniers petits trucs à ajouter. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de diagnostic officiel ou qui n'a pas été hospitalisée qui veut dire qu'elle n'est pas en souffrance. Je peux le dire, il y a ma sœur, je prends cet exemple rapidement. Elle a un trouble, elle aussi, alimentaire. Elle n'a jamais été hospitalisée, elle n'a jamais officiellement diagnostiqué, mais elle a un trouble alimentaire, elle souffre de boulimie. Je trouve qu'elle devrait être hospitalisée. Mais elle refuse parce qu'elle a 18 ans. J'essaie de l'aider le plus possible. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un diagnostic ou une hospitalisation que vous n'êtes pas malade. Ça veut pas dire que, oh, c'est normal, je suis pas à l'hôpital. Ça veut dire que c'est pas grave. Non, c'est grave. Et dernièrement, à toutes les personnes qui pensaient comme moi qu'ils étaient en train de fake le trouble ou leurs problèmes mentaux, pourquoi les fake si vous le dites à personne? Voilà. Petit mot. Cherchez de l'aide, du support et prenez soin de vous.